Les chemins de traverse, il était une fois une fée jaune, la gentiane. Une émission de Pascal Laurière, un programme Maurice Clément Fèvre. Bonjour et bienvenue à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, à la distillerie Belay. Pourquoi de Picherande, où nous étions à la fête de la gentiane, nous retrouver à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze? Tout simplement du fait que la distillerie Belay est représentée à la fête de la gentiane, comme nous le dit Damien Desserre, que nous avons déjà rencontré lors d'un précédent épisode.
Damien Desserre, moi je suis caviste à Besse-en-Chandaise, dans le Puy-de-Dôme. Et là, le but aujourd'hui, à la fête de la gentiane à Picherande, on représente la distillerie Belay de Brive-la-Gaillarde et la distillerie Génestine de Clermont-Ferrand.
La distillerie Génestine, nous l'avons également découverte lors d'un précédent épisode. Aussi, nous rentrons sans plus tarder dans la distillerie Belay, en plein centre de Brive.
Monsieur Chastanet-Bernard, je suis responsable de la distillerie Belay, que j'ai repris en 1981, après mon grand-père Belay. Moi, je m'appelle Chastanet, puisque c'est mon grand-père du côté de ma mère. Et il se trouve que cette entreprise, je l'ai gardée jusqu'en avril 2023. C'est mon fils qui a repris l'affaire en avril 2023. Mais je suis toujours dans l'entreprise. Il fallait bien un repreneur. Et donc, lui, il s'est décidé à reprendre cette boîte familiale. Donc, ça fait, moi, ça faisait trois générations. Le grand-père, le père, et puis moi, et puis mon fils, maintenant, quatrième génération. Quatrième génération.
Le début, alors donc.
Alors, l'entreprise a été créée en 1922.
Ça va être émouvant, ça, d'avoir 100 ans.
Ah, ben oui, c'est sûr, parce qu'une entreprise comme ça, ancienne, il n'y en a plus beaucoup. Mais il faut dire aussi que c'est un vieux métier, et que le métier des liqueurs, c'est un métier ancien. Et il y a encore des distilleries dans la région qui sont encore plus vieilles que nous, parce que c'est des métiers qui évoluent très lentement, justement. Ce qui fait aussi leur côté intéressant, parce qu'on reste toujours dans l'histoire, dans la tradition, vous voyez, et on n'évolue pas comme certaines entreprises qui d'un an sur l'autre, ça change de produit, ça change de patron, ça change de directeur. Nous, c'est toujours pareil, quoi, à peu près.
Vous avez une lignée.
Il y a une lignée, et en plus, nous, c'est une entreprise familiale, donc l'esprit de famille reste. Nos liqueurs sont fabriqués donc ici, artisanalement.
Alors là, nous sommes dans votre magasin d'époque,
oui.
1922, même endroit,
oui.
Ça n'a pas bougé.
Ça n'a pas changé.
Il est dans son jus.
Ah, tout à fait.
Enfin, c'est magnifique. Hein. Il y a la partie quand on rentre là avec le carrelage, avec les étagères où il y avait tous vos produits. Puis il y a la partie où nous sommes, où il y a des alambics, des cuves de récupération. Enfin bon, on sent que ça vit, puis qu'il y a des choses. Quoi. C'est vivant, il y a une âme là-dedans.
Mais oui, c'est toujours resté pareil.
Ça travaille toujours, cette partie-là.
Alors, vous avez cet alambic, qui est un alambic au bain-marie. Qui fonctionne pas trop souvent, celui-là, mais c'est un vieil alambic qui date d'avant la distillerie, Belay d'ailleurs, il vient d'ailleurs. Ah, il y en a un là, derrière, qu'on utilise pour faire des distillations de plantes.
D'accord.
Alors celui-là c'est au bain-marie, et l'autre il est à fenu. C'est-à-dire on met les plantes et l'alcool, et on chauffe au gaz, et l'alcool entraîne tout de suite le parfum. Mais je vous dis, ces alambics c'est plutôt pour des plantes plus volatiles. Et là, par contre, il y a du bain-marie, c'est-à-dire il y a un bain d'eau chaude dessous, et quand l'eau est chaude, comme l'alcool s'évapore avant l'eau, c'est l'alcool qui part en premier.
Vous la récupérez, vous faites les condensats et...
Voilà. Donc oui, on s'en sert toujours. On a même, pour le centenaire de l'entreprise, on a redistillé avec cet alambic le plus gros en face de vous, là. On a refait un alcoolat de plantes aromatiques de montagne. Et on a fait une liqueur qui ressemble un petit peu à la chartreuse, c'est-à-dire qui comprend plusieurs plantes. Donc ça n'a pas changé ici, ça n'a pas changé. Le magasin est là, le laboratoire est là, la cave derrière. Et en face, parce qu'on est séparés à deux, on a un atelier de fabrication, bien entendu, qui est un peu plus moderne.
Oui, parce que le matériel n'a pas tellement évolué.
Malgré non, ça n'a pas évolué. De toute façon, nous, c'est un métier qui évolue lentement, parce que c'est empirique. C'est fait artisanalement, une liqueur.
Oui, puis après, tout ce qui est, entre autres, tout ce qui est distillation, ça reste toujours du cuivre, parce que c'est là qu'il y a les meilleurs échanges. À la limite, c'est les automatismes qui se développent, mais après...
Le cuivre est plus porteur, meilleur porteur de la chaleur que le reste. Nous, on a toujours gardé ces appareils, et on redistille de plus en plus, d'ailleurs.
Oui.
Parce que c'est très intéressant de faire des produits nous-mêmes. on est artisanal, on a une petite production et on travaille beaucoup sur les zones de montagne. Avec des petits commerçants, surtout des petits commerçants qui nous ressemblent.
D'accord.
Voilà, donc ce sont des gens qui sont un peu dans le même état d'esprit que nous.
Un peu d'histoire.
Et votre arrière-grand-père.
Grand-père.
Comment il s'est mis à ça? Comment ça lui est venu?
Alors, je connais l'histoire, mais d'après ce que j'ai entendu, lui, il n'était pas dans la profession au départ, puisqu'il était comptable à l'époque. Ah ouais. Et donc, il a repris cette affaire. Il y avait beaucoup de liquoristes autrefois. Il faut savoir qu'il y avait 3000 fabricants de liqueurs en 1930.
Sur le territoire français
Sur le territoire français.
Ah oui.
Et que maintenant, au syndicat des fabricants de liqueurs, on est une soixantaine, en comprenant les grosses entreprises. Alors, c'est un métier qui revient quand même, parce qu'il revient dans les zones de montagne, justement avec des paysans qui fabriquent des liqueurs. Alors, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, oui, il a repris donc cette affaire. Il s'est associé à un liquoriste, parce que lui, il était plutôt dans la gestion, parce qu'une entreprise, il faut savoir la gérer aussi. Mmh. Donc, il s'est associé à un liquoriste qui s'appelait M. Noal, qui avait une liquoriste à Varès, à côté de Brive, et qui avait déjà une clientèle. Donc lui, ils se sont associés tous les deux, lui plutôt gestionnaire et l'autre plutôt commercial. Puis après, M. Noal est décédé et puis il a repris l'affaire Noal et puis c'est devenu Belé. Voilà, Noal Belé.
Et vous, d'y être rentré, d'avoir fait carrière là-dedans, ça...
Alors moi j'ai appris l'entreprise par empirisme. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de formation dans ce métier. Certains qui redeviennent liquoristes à l'heure actuelle ont des formations un peu d'œnologie, un peu le travail sur les vins, un peu avec la viticulture, parce que c'est surtout par rapport à l'administration, par rapport aux douanes. Y a une comptabilité des douanes qui se rapproche des vins, de la bière, de tout ça. Donc là, il y a une formation plutôt administrative. Mais la formation, pratique, se fait dans l'entreprise. On apprend à faire des liqueurs comme on apprend à faire une cuisine.
Hein. Oui.
Et moi, j'ai eu quand même quelqu'un qui m'a appris, qui travaillait dans un... Bien sûr, le grand-père avait des formules, déjà, on a repris les formules, mais après, on a fait d'autres créations, parce que, j'ai eu aussi une formation par chef de laboratoire qui fabriquait des arômes naturels, des infusions, des extraits aromatiques chez Métarom à Lille, et qui m'a appris un peu à distiller les plantes. Voilà.
Oui, donc vous avez quand même une formation dans tout ce qui est arômes, mélange des plantes.
C'est que c'est une formation, il n'y a pas d'école, que je vous disais. Il faut connaître quelqu'un qui vous forme. Et souvent, ces entreprises ont des difficultés parce que quand le fabricant s'en va, eh ben, pour en trouver un autre, s'il n'a pas été formé ailleurs, c'est difficile. Alors, en général, ça se fait par transmission aussi. Le fabricant, quand il veut partir, il en forme un autre.
Il y a ça. Après, il faut avoir une certaine sensibilité, je pense. Il faut aimer ce qu'on fait. Ouais. Par rapport à tous les produits que vous faites dans votre distillerie, en tant que liqueur, en tant que sirop, etc., par rapport à notre thématique, c'est la gentiane.
Oui.
Ça a toujours été travaillé la gentiane chez Belé ou
alors, c'est la gentiane,
et comment c'est arrivé?
Alors, c'est arrivé, la gentiane, un des premiers apéritifs justement de la distillerie Belé en 1922, c'était la gentiane et le guignolet. Et on a toujours fait de la gentiane. La gentiane, paradoxalement, se fabriquait beaucoup en Corrèze. Ouais. Il y avait beaucoup de petites liqueuristeries en Corrèze qui fabriquaient de la gentiane. Alors que la gentiane n'est pas d'origine de Corrèze, elle est d'origine d'Auvergne. Mais la gentiane s'est toujours consommée. Alors, au départ, il y avait des petits fabricants de gentiane, et certains sont restés au niveau artisanal, comme nous, et d'autres ont évolué. Je vous prends l'exemple de la Salaire, qui s'est développée. Mais au départ, il y avait beaucoup de fabricants de gentiane en Corrèze.
Et comment on explique ça, que la gentiane venant du Cantal, et puis que, en fin de compte, ça se fabriquait en Corrèze, quasiment
Le Cantal, la Corrèze... c'est pas tout à fait la même région, mais c'est proche, on fait partie du Massif central. L'identité corrézienne est quand même plus avec le Cantal, le Puy-de-Dôme. Disons, le pays de Brive serait plus axé sur le Quercy ou le Périgord. Mais à partir de Tulle, c'est quand même plus corrézien, esprit Auvergne, esprit Massif central. C'est pour ça que les produits du Massif central se fabriquaient en Corrèze. Et dans le Puy-de-Dôme, qui est le pays producteur de la gentiane, il n'y avait pratiquement pas de fabricants de gentiane.
Mais c'est ça.
Ils étaient en Corrèze.
Oui.
Dans le Cantal, il y en avait, mais dans le Puy-de-Dôme, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. Maintenant, il s'en est mis. Il y a des artisans qui reviennent et qui ont compris qu'il faut bien fabriquer aussi la gentiane où elle se cultive.
Oui, mais c'est fou parce que, si on remonte à 1922, les gens allaient la chercher ou les paysans la descendaient.
Mais on allait chercher la gentiane, nous, notre gentiane vient du Puy-de-Dôme. Voilà. Donc, elle se fabrique ici. Et c'est vrai qu'on la revend dans ces zones. Ouais, on la revend dans les zones de montagne. Alors, on a habitué Brive à la gentiane aussi, puisque les brivistes n'étaient pas trop conditionnés par la gentiane, puisque, en fait, c'était plutôt le pays de la Noire, si on prend le sud de Brive et tout ça. Mais la gentiane, ils ne connaissaient pas trop. Et nous, on apporte justement une information sur la gentiane, et c'est un produit qu'on adopte très bien ici, mais qui suivait beaucoup autrefois. Et après, ça a chuté. Mais ça revient maintenant avec le côté naturel, les produits naturels. La gentiane, c'est un apéritif naturel. Il n'y a pas d'arôme ajouté, voilà.
C'est une plante qui se suffit à elle-même.
Voilà.
Et par rapport aux gentianes, alors c'est vous qui allez les chercher? Vous travaillez toujours avec le même...
Alors moi,
le même paysan, le même arracheur?
Moi, c'est un paysan qui est un arracheur de gentiane au-dessus du Mont d'Or. Voilà, à Sauzet-le-Froid, exactement. Et qui récoltait la gentiane. Son fils a repris aussi l'entreprise.
Et vous y êtes allé là-haut, aider à ramasser, à arracher?
Alors, moi, non, c'est pas,
à l'occasion.
Mais je suis allé voir.
Oui, voilà.
Je suis allé voir comment ça se faisait. Hein. Et il ramasse la gentiane, il la récolte avec une fourche. Et c'est très lourd, c'est très compliqué. Et il faut être très habile pour faire ça.
Oui, c'est fatigant.
C'est fatigant.
Ça a pas l'air, mais.
Et on n'utilise que la racine.
Alors, cette gentiane, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, qui est un produit phare en plus quand même de votre gamme, je suppose?
Mais la gentiane, moi je trouve que c'est un excellent apéritif qui a des propriétés déjà apéritives. Parce que la gentiane en elle-même a des propriétés apéritives. Et on retrouve quand même ses propriétés apéritives dans l'alcool. Peut-être un peu moins importante, mais on la trouve aussi, surtout si elle est fabriquée par macération. Voilà. Donc on retrouve les propriétés apéritives de la gentiane. Et c'est vraiment le produit qui vous ouvre l'appétit. Ça, moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai pas faim. Je bois un verre de gentiane, ça vous nettoie, ça vous nettoie.
Mais à consommer avec modération.
Mais à consommer avec modération.
Et ce gentiane, pour vous, ça vous parle du... Bon, vous êtes corrézien, mais malgré tout, il y a un côté terroir, il y a un côté racine. Ça vous touche, ça vous...
Mais c'est ça, c'est-à-dire que la gentiane est appropriée à notre façon de penser. Parce qu'elle a ce côté terroir, ce côté histoire, et ce côté régional, Massif Central.
Et vos produits, vous les dispatchez
Alors, au départ, comme tous les licoristes qui étaient créés à cette époque, c'était pour vendre dans les bars. On faisait beaucoup les bars en Corrèze ou très proche de Brive. Voilà. Et puis la consommation des liqueurs ayant chuté, ne se consommant pratiquement plus, il a bien fallu les vendre autrement. Alors, c'est orienté sur le tourisme montagne, et justement par la gentiane et d'autres produits de plantes, on est allé vendre en montagne. Et nos principaux clients se trouvent donc en Auvergne, disons, Massif Central, et également dans les Alpes, et également dans les Pyrénées. Alors, en Auvergne, c'est là que se consomme la gentiane et à ce bois. Très difficile ailleurs. C'est une histoire de culture. Quand vous allez dans les Alpes, par exemple, il y a autant de gentiane qu'en Auvergne, même plus, parce que c'est plus grand.
Ben oui.
Mais ils n'ont pas la culture de la gentiane là-bas.
Mais ils ont un peu la culture de l'eau de vie, non?
Alors, c'est l'eau de vie de gentiane là-haut. C'est plutôt le génépi, dans les Alpes. Hein. Dans les Pyrénées, c'est plus le côté myrtille. Et donc, la gentiane, c'est l'Auvergne. Donc, on s'est orienté sur les zones de montagne pour faire du chiffre d'affaires. Et puis, l'avantage des zones de montagne, c'est qu'il y a deux saisons. C'est souvent des produits qui s'achètent en cadeau, en souvenir. Et donc les gens, ils ont deux saisons, été hiver. Alors qu'ailleurs, il n'y a qu'une saison.
À propos de saison, la tradition dit que la hauteur de la tige au début de l'été indique l'épaisseur de la couche de neige de l'hiver prochain.
C'est un métier qui est passionnant parce que... Moi, c'est ce qui m'a toujours plu dans ce métier, surtout quand j'étais jeune, c'est de fabriquer, de faire des essais, de distiller, et puis de dire, mais quand même, ça va pas rester là, il faut bien le vendre. Parce que le nerf d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est de vendre.
Je vous laisse déambuler dans le magasin Centenaire et vous donne rendez-vous dès le prochain épisode avec Bernard Chastanier, licoriste. Au revoir et à très bientôt. Thank you.